Chapitre 6. Avant de rejoindre les autres, je passai à l'infirmerie faire changer mes pansements. « C'est bien, » constata l'infirmière satisfaite. « Les points de suture sont propres. Il n'y a aucune trace d'infection. Vous vous en tirerez avec une belle cicatrice. Je pense que vous pouvez désormais faire vos soins vous-même. Surveillez la plaie, elle doit rester saine. Pour le reste, à ce que l'on m'a dit, vous avez l'habitude des brûlures. » Lorsque je me présentai en salle du conseil, l'effervescence régnait. Kathleen, en grande discussion avec William, m'adressa un sourire de loin et reporta aussitôt son attention sur l'écran de son ordinateur portable. Andrew me fit signe, il était au téléphone et marchait de long en large au fond de la pièce, l'air tendu. Ce qui m'arrivait ne devait affecter notre fonctionnement en aucune manière, tous le savaient. Moi le premier. Antoine vint à ma rencontre. Nous nous sommes répartis tes dossiers pour te laisser le temps de te retourner. Derek aura sans doute besoin de toi pour être vraiment au taquet sur deux ou trois trucs, notamment sur l'opération à Genève. C'est plutôt pointu. J'opinai en silence. Il me questionna sur mes intentions. Je savais où j'en étais et je n'avais pas beaucoup d'options. Je dois d'abord faire le point seul. Prendre les décisions nécessaires au niveau du groupe ne sera pas difficile, mais les accepter à titre personnel sera une autre paire de manches. Je connais trop bien nos mécanismes pour me mentir. D'ici 24 heures, soit je refais surface avec une pirouette du style « j'étais inconscient et un sans-abri m'a recueilli », soit on décide de me faire mourir et ils retrouveront un corps dans la Seine, tellement abîmé par l'explosion et bouffi par la flotte que seuls mes vêtements permettront de l'identifier. La lucidité de ma remarque réduisit à néant la belle humeur qu'Antoine s'efforçait d'afficher. « Ne m'en veux pas, » dis-je en lui posant la main sur l'épaule. « Je sais que notre mission dépasse nos intérêts personnels. Même maintenant, j'en reste conscient. Il faut seulement que je réfléchisse à tout. » Sur ces mots, je quittai la pièce. Je m'en voulais sincèrement de le laisser comme ça. J'avais déjà fait l'expérience de sa situation. Il devait être empli de deux des sentiments que l'on supporte le moins quand on a notre caractère, l'impuissance et la tristesse. Absorbé dans mes pensées, j'empruntai un Range Rover pour gagner une haute falaise à quelques kilomètres de l'abbaye. Sedgwick Head. Je me garai et pris le petit sentier que mon maître et moi avions suivi 10 ans auparavant. Cela me faisait drôle de revenir ici seul, confronté à un problème auquel j'avais été théoriquement préparé. La théorie ne valait plus rien et la pratique me paraissait insurmontable. À l'époque, j'avais à peine 20 ans, de l'énergie et de l'espoir à revendre. Je suivais une formation d'artificier de cinéma et j'avais déjà travaillé sur quelques superproductions. Je vivais mon rêve parmi les meilleurs professionnels. Le feu est l'élément le plus fascinant de la création. Il a la puissance, la pureté, l'indépendance. L'une de mes premières leçons m'avait appris à le considérer comme un être à part entière. Respecte-le et il te respectera. Brave-le et il te détruira. Mon maître m'avait dit ces mots. Pas une fois, ils ne se sont démentis. J'alternais un apprentissage poussé de la chimie des explosifs avec des tournages. Nous avions fait exploser à peu près n'importe quoi, depuis des véhicules jusqu'à des gratte-ciel, et brûlé presque tout le gratin, si j'ose ce jeu de mots, du cinéma mondial. Durant ces années, mes professeurs me transmirent leur savoir, mes maîtres m'enseignèrent la sagesse, et le feu m'apprit l'humilité. En progressant dans le métier, je m'aperçus que tous les grands se connaissaient et travaillaient ensemble, mais surtout qu'ils avaient en commun un esprit, une philosophie, une chaleur et une sincérité qui n'avaient rien à voir avec l'image futile que le public se fait d'eux. C'était pour beaucoup des gens simples, d'une profonde humanité. Loin des médias et des modes, tous s'investissaient activement au service de causes ou de fondations. Un coup de vent m'apporta les effluves salés de l'océan. Le ciel se couvrait. C'était plus que fréquent, mais sous les nuages sombres et gonflés de pluie, le paysage dégageait une force qu'aucun soleil n'offrirait jamais. Le sentier longeait la lande, descendant vers la mer par paliers. Les vagues battaient le flanc de la falaise avec une régularité obstinée. Les innombrables siècles d'assaut des marées avaient à peine émoussé la roche. Quelques blocs noirs et luisants, tels des dos d'animaux marins redoutables, surgissaient brièvement entre les flots. Ces mêmes roches avaient préservé la région de bien des conquêtes. 10 ans que je n'étais pas venu, et rien ne semblait avoir changé. Les mêmes cris d'oiseaux, le même tonnerre de la mer, le même vent chargé d'embrun, le même rocher moussu où nous nous étions assis. L'une des choses qui m'avait donné envie d'en savoir plus sur le groupe, puis sur la confrérie, était l'esprit des gens qui semblaient en faire partie. Je pensais avoir découvert seul l'existence de ce petit noyau. Je compris par la suite qu'il n'en était rien et que je n'avais fait que voir ce qui m'était montré. Je me souvenais de tout. Le vrai pouvoir n'est pas aux mains de ceux qui prétendent diriger, m'avait expliqué mon maître. Dire et promettre ne sert à rien. Il faut agir. Une multinationale est plus à même de faire appliquer une idée que n'importe quel homme d'État. Nous avions conversé longuement. À l'opposé de tous les principes totalitaires, personne n'essayait de m'inculquer de force une idéologie au profit d'un pouvoir. On me laissait suivre mon propre raisonnement, me poser mes propres questions. Ces gens ne faisaient que révéler en moi des idées qui m'étaient personnelles. Ce jour-là, nous avions parlé du fait que les hommes sont en guerre les uns contre les autres depuis la nuit des temps. Certains se battent pour eux-mêmes, pour l'argent, pour ce qu'ils croient être le pouvoir. Face à cela, d'autres pensent que la seule chose dont nous ayons tous besoin, c'est de vivre en paix et de ressentir. Entre les deux, il y a les gens ordinaires, ceux qui se disent que ça pourrait être pire, ceux qui subissent les combats et les injustices sans jamais pouvoir s'en sortir, ceux qui meurent de faim, de soif, de maladie et de tant d'autres raisons. Il n'y a dans ce schéma ni froideur, ni mépris, ni appel à la révolte. Ça aussi, j'ai mis longtemps à l'admettre. Il n'est pas question de bons, de méchants, d'êtres élus ou de quoi que ce soit d'autre. Aucune place n'est la meilleure. Chacun agit selon ses convictions. C'est presque de l'égoïsme de vouloir que les choses s'améliorent quand on se rend compte qu'elles vont mal et qu'on est incapable d'y rester indifférent. Les premières gouttes heurtèrent mon front. Le célèbre crachin écossais faisait son entrée. La marée devait être descendante, car je distinguais à présent le pied de la falaise. La mer est comme la vie. Quand on la regarde de près, il n'y a que chaos et tempête, mais au loin, à l'horizon, tout est calme et immobile. Pour ce qui était de ma propre existence, j'avais le nez dans une déferlante. Le jour commençait à décliner, je devais regagner l'abbaye. Sur le trajet du retour, les fous de Bassan m'accompagnèrent en criant. Depuis l'attaque, mon esprit était pour le moins désorganisé. J'avais des pensées étranges, pas du tout comme à l'accoutumée. Sur ce plan-là, l'attentat était une réussite.